Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette émission consacrée à la relation de confiance entre les collectivités et les médias, une émission organisée dans le cadre de la 28e édition des Entretiens territoriaux de Strasbourg, le rendez-vous des cadres dirigeants proposé par l'INET. À présent, nous vous proposons d'échanger avec Jean-François Lanluc, qui témoignera en tant qu'ancien directeur général adjoint en charge de la communication, mais aussi directeur de cabinet, notamment à Strasbourg et à Lyon, et Christelle Chakis, qui est actuellement directrice de la communication de la ville de Mulhouse. Dans cette dernière partie, nous évoquerons comment la communication politique et celle de l'administration doivent cohabiter. Christelle, une question pour vous. Expliquez-nous comment vous gérez la communication politique.
Alors, la communication politique, je ne la gère pas. Voilà, tout simplement parce que le service de communication de la ville de Mulhouse ne fait pas de politique. Donc, on essaye de bien distinguer les choses au niveau de la collectivité. Bien évidemment, on va accompagner l'action municipale, et ça, c'est notre rôle. On va vraiment mettre en œuvre le programme sur lequel est élu nos élus. Mais nous n'allons pas appuyer sur de la politique, c'est-à-dire nous n'allons pas mettre en avant un politique plutôt qu'un autre sur ses idées. Donc, on est vraiment dans de l'accompagnement. Ce qu'on peut dire, c'est que la communication publique, on va être dans de l'information, de la pédagogie auprès des habitants, parce que ça, c'est la concertation, tout ce travail-là est très important. La transparence et le suivi du mandat, alors que la politique, ça va être tout ce qui est campagne, promesses électorales, les positionnements partisans. Et là, pour le coup, bon, on est en plein dedans, dans la période préélectorale, donc c'est là que c'est encore plus touchy. Il faut faire vraiment attention à comment on traite l'information et bien distinguer des comptes, par exemple, réseaux sociaux du maire, et réseaux sociaux de la ville. Voilà, bien faire les distinctions pour ne pas avoir de soucis aussi bien du côté de l'administration que des élus, parce que je vous rappelle que derrière, si on mélange un petit peu tout, il y a des sanctions qui peuvent tomber aussi par rapport aux élus. Donc c'est très très important d'être aussi quotidiennement en lien avec le directeur de cabinet sur ce genre de questionnement, parce que des fois, il va me dire, on prend le risque si vraiment, nous, c'est pas un problème pour notre campagne ou pas, voilà. Mais au moins, on en a discuté. C'est en transparence entre nous et on s'organise pour que les choses soient bien avec la DGS, bien sûr, en parallèle.
Vous avez un exemple concret de, par exemple, cette semaine ou la semaine dernière, d'un sujet qui est arrivé et où vous avez dû faire la part des choses entre le politique et l'administration ?
Alors, l'exemple concret, en fait, par exemple, on nous a remis un prix sur un prix territorial sur le service jeunesse qui a eu un prix sur une action qui s'appelle Engage-toi. Donc, le traitement pour nous, ça a été la ville de Mulhouse et son service jeunesse a reçu le prix pour le prix territorial Engage-toi. Et du côté des élus, ils ont pris sur le, puisqu'on ne s'occupe pas des réseaux sociaux donc, de Madame le maire, donc ils ont pris l'aspect plutôt, l'élu, Ayoubila, qui est l'élu à la jeunesse, a reçu le prix en lien avec les services de la ville. Donc, vous voyez, le traitement, il n'est pas tout à fait pareil. L'information, elle passe quand même, mais on n'est pas tout à fait dans le même positionnement. Et ce qui nous va bien, parce que c'est plutôt clair comme ça entre l'administration et la politique.
Jean-François, il est temps de nous donner votre point de vue en tant que directeur de cabinet de la métropole de Lyon et de la ville de Lyon, quand vous y étiez. Comment est-ce que vous gériez, vous, la communication du maire et du président de la métropole, du coup ?
En fait, que ce soit à Lyon ou à Strasbourg, j'ai d'abord été directeur de la communication. DGA, c'est par accident, c'est parce qu'on m'a adjoint d'autres compétences. Et puis j'ai cumulé effectivement ces fonctions, tant à Lyon qu'à Strasbourg, avec la fonction de directeur de cabinet. En fait, j'ai envie de dire qu'il y a eu deux raisons à ça. Il y a une première raison, c'est que je pense que l'une des choses qui tue l'efficience de la communication, c'est le process de validation. C'est terrible le processus de validation parce que vous demandez l'avis, vous risquez de demander l'avis à tout le monde. Alors, les gens qui préfèrent le bleu, d'autres le vert, d'autres le rouge, qui n'a rien à voir avec l'efficience évidemment d'une politique de communication, d'une campagne de communication. Et je me suis dit, le moyen le plus sûr d'aller très vite dans la validation, c'est d'être directeur de cabinet. Effectivement, je confirme que je n'ai pas trop de mal à m'entendre avec moi-même et que de ce point de vue, les validations allaient beaucoup plus vite qu'auparavant. La deuxième chose, c'est que Je ne fais pas tout à fait la distinction entre la communication publique et la communication politique. Je la fais, par contre, entre la communication publique et la communication électorale. Ça, c'est clair. De toute façon, même juridiquement, ça doit être complètement séparé. Donc, ne mélangeons pas la communication politique au sens de donner du sens aux politiques publiques qui sont menées. Faire valoir le maire, oui, bien entendu. Nous, que ce soit à Lyon ou à Strasbourg, on était toujours très, très fiers que Gérard Collomb incarne des choses à Paris. Je ne parle pas de son ministère, c'était avant quand il était maire, enfin maire à temps plein. Et tout comme on était fiers que Roland Ries soit mis en avant sur telle ou telle initiative. Voilà, on ne parle pas de communication électorale, on parle de communication politique dans ce sens-là. Et je pense que dans une politique de communication, il y a quelque part aussi la transformation d'image d'un territoire. Il y a une mutation d'image, il y a des besoins d'information, bien entendu, mais il y a donner du sens aux actions publiques qui sont menées, et puis il y a la promotion du territoire. Et pour aller très très rapidement et pour pouvoir réussir cette mutation d'image, ça passe par une communication qui est efficace et ça passe, ça je le crois vraiment, par une proximité avec l'exécutif. C'est-à-dire qu'il faut que très vite, je prends le temps d'une anecdote, moi je crois qu'en trois mots j'avais compris ce que Gérard Collomb attendait de moi à Lyon. Il m'a dit, moi ce que je voudrais c'est que Lyon, qui quand il a été élu en 2001 avec quand même l'image plutôt d'une ville un peu endormie, elle était très en profondeur dans les classements d'attractivité et compagnie, il me disait, moi je rêve que Lyon soit Barcelone. À l'époque, maintenant, c'est un peu moins vrai, mais enfin, Barcelone, c'était le paradis des collectivités, des villes, c'était le modèle absolu. Et donc, ce que j'entendais, c'était il faut une ville fun, sexy, à l'aise dans le monde contemporain, qui parle un peu moins de patrimoine mondial UNESCO, parce que la ville venait de se faire classer patrimoine mondial, en tout cas pour ce qui était du Vieux Lyon, et un peu plus de choses innovantes, un peu disruptives, Et c'est cette proximité qui permettait derrière de disposer aussi des marges de manœuvre qui permettaient de faire une opération et de faire une politique de communication qui soit en adéquation avec ses objectifs. Et puis surtout, d'avoir la confiance de l'exécutif. Il faut cette proximité. Quand je suis arrivé à Lyon, je n'étais pas directeur de cabinet. Il y avait deux directeurs de cabinet. Il y en avait un à la ville et à la métropole. Ils m'ont dit, la règle du jeu est simple. Ici, Gérard Collomb voit tout. Au bout de 6 mois, Gérard Collomb, il ne voyait même pas l'édito qu'il signait dans son journal municipal ou dans son journal de la métropole, c'était quand même 1 million d'exemplaires. Et ça, c'était un niveau de confiance qu'il faisait simplement. Alors nous, on avait le sentiment de le connaître suffisamment pour pouvoir écrire à sa place. Et puis lui, il avait cette vision, il nous faisait confiance. Et puis il avait aussi cette vision, pour connaître, très importante chez un élu, qui était de dire « je ne fais que ce qui est nécessaire dans ma fonction ». Ma fonction d'élu, c'est la stratégie, c'est les grandes orientations, c'est la représentation et c'est la politique. Mais dès lors que quelqu'un d'autre peut faire, on va dire, du cambouis, pour tout, la rédaction d'un édito, il le faisait volontiers. Mais on ne serait jamais arrivé à ça s'il n'y avait pas eu cette proximité, cette confiance avec l'exécutif. Et ça, je reconnais que c'est aussi le poste de directeur de cabinet qui permet ça. Voilà, donc je pense que en cumulant ces fonctions, la communication a été effectivement plus efficace, plus réactive, plus active. Et j'insiste bien sur la différenciation avec la communication électorale. Ça, c'est deux choses qui sont complètement distinctes, mais j'ai assumé dans ma carrière, en plus je trouvais que ça facilitait ma vie, effectivement, et ça facilitait l'efficience de la communication, d'être à proximité de l'exécutif.
Pour rebondir sur l'interactivité et les réseaux sociaux notamment, mais aussi l'intelligence artificielle, il y a de nouveaux outils aujourd'hui qui existent. Christelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces outils ont bousculé la communication publique ?
Alors, en effet, les réseaux sociaux, ça a été l'accélération de toute la communication. Tout a changé à partir des réseaux sociaux, dans le sens où il faut donner de l'information, il faut modérer en même temps, il faut répondre aux gens. Enfin, voilà, il y a vraiment une accélération, ce qui fait que les équipes sont aussi très, très mobilisées. Nous aussi, on a cette chance de ne pas avoir de validation. Donc, c'est-à-dire, on gère les réseaux sociaux solo, c'est ma responsabilité. On gère le magazine municipal, pareil. Pour le coup, il y a quand même un regard sur l'édito, mais le reste, on gère tout. C'est une vraie souplesse, c'est clair. Mais c'est aussi parce que, il y a un vrai échange avec le cabinet et avec la direction générale. Donc ça, c'est une vraie souplesse et ça nous apporte vraiment une accélération aussi pour pouvoir suivre justement ces évolutions dans la communication. Un petit changement d'ailleurs, un petit exemple qui peut vous illustrer ça, c'est qu'il y a quelques années, on avait un magazine qu'on avait passé, nous, de façon hebdomadaire. parce que le magazine, le mensuel ne suffisait pas. Il fallait qu'on apporte... On avait déjà pris de l'accélération en se disant on va donner un magazine toutes les semaines dans les mains des Mulhousiens. Et maintenant, on est sur un trimestriel. Donc, le magazine, on ne le voit qu'une fois tous les trois mois dans la boîte aux lettres, qui a un très bon lectorat d'ailleurs, hein, donc c'est un beau magazine, on est content. Mais parce que tout ça, ça a été repris, toute l'actualité à chaud a été repris bien sûr sur les réseaux sociaux. On a aussi mis en place un webzine qui nous permet de poster tous les jours des articles de nos journalistes, des vidéos. Voilà, donc ça se complète, on va dire, mais en effet, on est sur un magazine qui va être plus sur des articles de fond, plus sur voilà, de l'information un peu plus costaud, on va dire, sur du dossier, alors que tout ce qui est à chaud est traité par les réseaux sociaux et par le webzine.
Il est l'heure de remercier nos intervenants. Nous arrivons au terme de cette série de podcasts qui était donc consacrée à la relation entre les collectivités et les médias. Merci à tous pour votre attention.